Bienvenidos a este informativo de
Radio France. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde sur RFI. François Bernard.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute d'Action du Monde. Comme tous les vendredis soirs sur RFI, on évoque les moments forts de l'actualité avec les rédactions en langue autre que le français de votre radio. Et ce soir, dans le studio de Radio France Internationale, Natalia Olivares pour la rédaction en espagnol. Bonsoir.
Buenas tardes, François.
Adriana Moises qui représente la rédaction en brésilien. Bonsoir à vous.
Boa noite, François.
Et Pise Mam de la rédaction cambodgienne. Bonsoir.
Bonsoir, François.
Alors, en deuxième partie d'émission, nous évoquerons la crise politique au Cambodge, l'émergence d'un nouveau mouvement politique au Brésil, puis l'extrême violence qui continue d'affecter le Mexique et notamment les femmes dans le pays. Mais pour l'instant, quelques heures à peine après le discours inaugural du nouveau président Mnangagwa, nous allons évoquer la situation au Zimbabwe telle qu'elle a été perçue et couverte par le service cambodgien. On va commencer avec vous, Pizamam, car vous nous dites que quelques jours avant l'intervention de l'armée zimbabwéenne pour pousser à la démission le président Mugabe, le général Constantino Chiwenga est parti à Pékin pour une entrevue avec le ministre de la Défense chinoise. Et dès lors, on soupçonne un petit peu que la Chine aurait poussé l'armée à intervenir pour mettre fin au règne du président Mugabe.
Oui, François, en effet, le chef d'état-major de l'armée zimbabwéenne, le général Constantino Chiwenga, est parti à Pékin pour une visite officielle la semaine précédente, le coup d'état à Harare. Le général zimbabwéen a pu parler avec le ministre chinois de la Défense ainsi que plusieurs généraux chinois. D'après le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, il s'agissait d'une visite classique pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays. C'est un hasard peut-être, mais une intervention militaire survenue le 15 novembre à Harare ne s'improvise pas. L'entrevue du général Chiwenga avec les responsables chinois 2-3 jours avant ce coup d'État est plus que soupçonnable. Et d'autant plus, il y a des rumeurs comme quoi M. Emmerson Mnangagwa, après avoir été chassé de sa fonction de vice-président le 6 novembre, celui-ci aurait parti se réfugier à Pékin. Pékin et Nankin, actuellement qu'on appelle Nanjing, sont les villes chinoises que M. Mnangagwa connaît si bien parce que c'est là-bas qu'il a été, qu'il s'est formé au renseignement dans les années 60.
D'accord, mais en quoi le changement politique au Zimbabwe serait-il bénéfique pour la Chine?
La Chine ne se soucie jamais de questions démocratiques ou droits de l'homme. La Chine a toujours été un des rares pays à marcher main dans la main avec le président Mugabe pendant des décennies. Avant tout, c'est parce que le Zimbabwe dispose d'une réserve énorme de ressources minières. Mm-hmm. Pour le Zimbabwe, la Chine est sa première partenaire économique, pour ne pas dire que le pays est indépendant de la Chine économiquement, comme c'est le cas d'ailleurs des autres pays africains, notamment le Soudan, l'Angola ou la Mauritanie. Mais les centaines d'entreprises chinoises présentes au Zimbabwe souffrent beaucoup ces dernières années à cause de la politique du président Mugabe.
Et c'est donc le marché des ressources naturelles que la Chine met en avant un petit peu.
Oui, c'est ce que la Chine cherche à préserver, c'est sa main mise sur le marché de ressources naturelles de ce pays, d'où le renforcement de liens avec l'armée zimbabwéenne, car la Chine sait trop bien comment gâter ses anciens généraux marxistes. L'armée a trop de puissance au Zimbabwe, donc c'est peut-être là la raison de petits coups de pouce et le soutien de la part du gouvernement chinois pour aider l'armée et Monsieur Mnangagwa a pris le pouvoir. Donc maintenant, pour le nouveau président soutenu par l'armée, le Zimbabwe se trouve littéralement dans les griffes du dragon chinois. Par ailleurs, le chercheur chinois Wang Hongji disait dans les lignes du journal Global Times, qui est le journal officiel de la Chine, il disait que la Chine a été très déçue des coopérations avec l'ancien gouvernement de Monsieur Mugabe et qu'un changement de gouvernement ne serait que bénéfique pour la Chine.
Pizemam, merci. Je me tourne vers vous, Natalia Olivares, du service espagnol de RFI. La chute de Robert Mugabe a suscité toutes sortes de comparaisons en Amérique latine. D'abord, de par l'autoritarisme, on va dire, de l'ex-président du pays, mais aussi parce qu'il a été poussé à la démission.
Voilà, poussé à la sortie, c'est exactement ça, François. Il faut dire que dans notre région, on a vu passer plusieurs dictatures et dernièrement, on a vu aussi la chute de président élu démocratiquement. La dernière en date, on va dire, ça a été celle de Dilma Rousseff au Brésil, mais bon, elle a été destituée par le Parlement, c'est pas la même chose, et ça n'a rien à voir avec le cas Mugabe. Je vois déjà la grimace d'Adriana du service brésilien qui est à côté de moi. Ça n'a rien à voir. Elle a été élue et réélue. Elle est restée 5 ans et demi contre 37 pour Mugabe. C'est pas un détail. Alors tout ça pour dire que, en fait, le spectre de la destitution et la poussée vers la sortie plane en Amérique latine. Il est bien là, et cela nous amène au Venezuela. François, Nicolas Maduro, le président vénézuélien, qui s'est retrouvé à être rattaché, on va dire, à Robert Mugabe, un peu malgré lui, mais aussi surtout parce qu'il a tenu à envoyer un message de soutien. Il a appelé les autorités du Zimbabwe à respecter l'intégrité physique et morale de Robert Mugabe et de sa famille. Et il a condamné un coup contre l'ordre institutionnel, un peu, on va dire, comme un écho à sa propre situation, puisque le pays est en pleine crise politique, et que l'opposition ne reconnaît pas l'Assemblée constituante vénézuélienne et qui cherche à le faire partir du pouvoir.
Bon, un parallèle qui est pas forcément très heureux, voilà, entre le Zimbabwe et le Venezuela, mais qui n'est pas complètement un hasard tout de même, puisque les chefs des deux gouvernements, des deux pays, se connaissent bien.
Effectivement, Robert Mugabe a toujours soutenu Nicolas Maduro, et plus officiellement lors d'un sommet des pays non alignés en 2016. Il a été un des rares à le soutenir en ce moment-là. Le Venezuela vit, comme aujourd'hui, une crise politique et économique sans précédent.
Et les Latino-Américains ont aussi appris à connaître Grace Grace, la femme de Robert Mugabe, perçue comme, on va dire, un petit peu la cause de la chute de l'Empire Mugabe. Ça a été un des sujets aussi ces derniers jours, non ?
Voilà, c'est ça, on a vu ça dans la presse. Alors, qui est Robert Mugabe, mais surtout et aussi, qui est Grace, ou Grace, comme vous disiez, Mugabe ? Eh bien, c'est celle par qui la chute du dinosaure, c'est un surnom aussi qu'on a vu là-bas, arriva. C'est ce qu'on a lu donc dans la presse, c'est pas moi qui le dis. Grace Mugabe a été l'erreur de calcul du stratège Robert Mugabe, alors qu'il a su écarter ses opposants et même ses proches pendant des décennies. À 93 ans, il a entraîné sa propre chute en évinçant son vice-président pour remettre le pays entre les mains de sa femme, qu'on a surnommée, elle, partout et aussi en Amérique latine, du coup, Gucci Grace, pour son goût pour le luxe, les 3000 paires de chaussures accumulées, les 100 000 euros de dépenses en seulement 2 heures de shopping lors d'un bref passage à Paris. Tout cela a bien été relayé par la presse en Amérique latine. Et aussi son deuxième surnom, Disgrace. Disgrâce. Les médias ont rempli leur page sur la différence abyssale et vertigineuse entre ses dépenses et les biens millionnaires et les niveaux d'extrême pauvreté qu'elle et sa dynastie ont laissé au Zimbabwe. On peut dire 80% du taux de chômage et une espérance de vie qui a chuté à 42 ans au Zimbabwe.
Natalia Olivares. Adriana Moises. Alors, la chute de Robert Mugabe a été suivie au Brésil ?
Depuis l'éviction de Mugabe, on se rappelle la nuit du 14 au 15 novembre, suite à un coup de force de l'armée, la crise politique au Zimbabwe est devenue un des principaux titres de l'actualité internationale au Brésil, sans pour autant faire objet d'analyses plus approfondies dans la radio ou les plateaux de télé. Ce sont surtout les grands journaux du pays, tels que Folha de São Paulo et O Globo, qui ont traité le sujet avec des articles plutôt pédagogiques du genre « Qui est Grace Mugabe ? Quel a été le rôle de la femme de Mugabe dans sa chute ?» Rien d'exceptionnel, l'actualité africaine n'a jamais fait de gros titres au Brésil, en fait, malheureusement. Les journalistes Fabio Zanini du Folha de São Paulo, un spécialiste de la région qui a vécu pendant un moment en Afrique du Sud, a été pratiquement les seuls à publier un article de fond. Il a trouvé ironique quand même que Mugabe, après avoir survécu à tant de crises, une guerre civile dans les années 80, la pression de l'apartheid, de la dépendance de l'économie sud-africaine, l'hyperinflation, doit s'ajouter justement à l'ambition de sa femme Grace.
D'accord. Alors, l'arrivée au pouvoir du nouveau président, il s'appelle Emerson Mnangagwa, celui qu'on surnomme le crocodile, suscite quand même des interrogations également au Brésil, d'autant qu'on parle d'éventuelles poursuites contre le désormais ex-président Mugabe.
La presse brésilienne reste très prudente. On se demande combien de temps Emerson Mnangagwa restera au pouvoir, d'abord avec le soutien du parti ZANU-PF et des militaires, peut-être de la Chine, comme on a appris tout à l'heure. toujours, les militaires sont toujours très puissants. Il a promis à la population de relancer l'économie du pays, une urgence absolue, sans pour autant détailler un programme. Ça reste très opaque. On n'oublie pas qu'il a longtemps exécuté la politique répressive de l'ancien président. Il n'y a pas d'éléments donc concrets rassurants en faveur d'une politique de rupture, à part des promesses. Quant à Mugabe, la presse brésilienne pense qu'il ne sera pas inquiété en fait. On se souvient que son prédécesseur, Ian Smith, dirigeant d'un régime raciste, a continué à vivre en liberté dans les Zimbabwe après avoir été viré par Mugabe.
D'accord. Alors, peut-être rapidement et en conclusion, la réaction du gouvernement de Michel Temer à l'éviction de M. Mugabe ?
Michel Temer, qui a pris le pouvoir après ce qu'on beaucoup pense avoir été un coup d'État au Brésil contre Dilma Rousseff. Pour l'instant, le gouvernement brésilien reste très discret. Il n'a pas réagi à cette crise politique. Mmh.
20 sauf Paris. Paris, 20
onde 20 os termômetros da Serra se coincidem.
Accent du monde sur RFI. François Bernard.
Deuxième partie d'Accent du monde pour évoquer des sujets qui ont particulièrement intéressé les trois rédactions de RFI que nous accueillons aujourd'hui. Pour la rédaction en espagnol, Natalia Olivares. Pour la rédaction brésilien, Adriana Moisés. Et pour la rédaction cambodgienne, Pizemam. Alors, Pizemam. Si Robert Mugabe, finalement, a démissionné après 37 ans de pouvoir au Cambodge, le Premier ministre, M. Hun Sen, n'y semble, lui, pas du tout prêt. À moins d'un an d'élections législatives, M. Hun Sen multiplie les attaques. Il envisage même la dissolution de l'opposition.
Oui, François, ça y est, c'est déjà fait. Monsieur Hun Sen ne détrône pas encore la longévité au pouvoir de Monsieur Mugabe, certes, mais à 32 ans au pouvoir, cela commence à être très très long. Comme vous dites, il n'est pas du tout prêt à partir et au contraire, la voie lui semble plus que jamais sécurisée pour renouveler son nouveau mandat en 2018. La voie est libre parce qu'il vient de dissoudre l'opposition, le parti de sauvetage national CNAP. Avec plusieurs montages de lois, le gouvernement de M. Hun Sen a réussi à enfermer le chef de l'opposition, M. Kam Sok Ha, et ensuite bannir l'opposition par une décision de la Cour suprême datant du 16 novembre. Avec cette décision, une centaine de politiciens proches de l'opposition sont interdits d'exercer leur activité. C'est une crise sans précédent et très grave avec pour le jeune démocratie cambodgienne. Jamais le pouvoir n'allait jusqu'à bannir l'opposition et enfermer le chef. Cette fois-ci, il le fait parce que d'après le résultat de l'élection municipale en mai dernier, l'opposition a récolté beaucoup de voix, à tel point le parti de M. Hun Sen risquerait de perdre lors de l'élection en 2018.
Alors, le fondateur de l'ancien chef de l'opposition, il est en exil, il s'appelle Sam Rainsy, il a donné une interview à l'agence de presse Reuters qui dit que ce qui se passe au Zimbabwe est un motif d'inspiration pour le Cambodge. Aujourd'hui, quelles sont les marges de manœuvre de l'opposition cambodgienne, Pizemam ?
L'opposition compte uniquement sur les pressions internationales. Les dirigeants de l'opposition sont en train de mobiliser les communautés cambodgiennes à l'étranger et les gouvernements de pays occidentaux. L'opposition espère que la communauté internationale mette la pression ou condamne le pouvoir de M. Hun Sen à Phnom Penh. À part la Suède et les États-Unis, aucun autre pays ne s'est exprimé ou engage des sanctions. Silence aussi de la part de la France, qui est quand même le parrain de l'accord de Paris pour la paix au Cambodge en 1991. Le sénateur M. André Gotolin a appelé hier le gouvernement français à engager des sanctions économiques envers le Cambodge. Mais il ne faut pas oublier, François, que les sanctions économiques peuvent aussi affecter directement le secteur manufacture cambodgienne, dont les ouvriers.
Merci, Pizemam. Natalia Olivares, je reviens vers vous, parce qu'on s'apprête à célébrer, c'est samedi, hein, demain, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ici en France et partout dans le monde, bien sûr, en Amérique latine. L'ONU a pointé du doigt les autorités de différents États et affirme que c'est l'Amérique latine qui est la région où les femmes subissent le plus de violences.
C'est ça, et non seulement le bilan est affolant, ce qui concerne les chiffres, mais il y a en plus de nouvelles formes de violences répertoriées par l'ONU envers les femmes dans cette région. région et plus particulièrement, comme vous le disiez, Francisco, j'ai envie de vous appeler à la manière espagnole, au Mexique et dans les Caraïbes. Des chiffres donc alarmants qui viennent de l'ONU et ce, malgré le fait qu'il existe dans ces pays et dans les pays d'Amérique latine, des lois qui pénalisent la violence de genre. On peut rappeler par exemple que 2 femmes sur 3 meurent assassinées pour le simple fait d'être femme. J'ai un son à vous faire partager, si c'est possible.
Hace tal vez 25 años era un fenómeno que se generaba principalmente dentro del seno familiar.
Alors, il s'agit de Genia Pizza-Lopez, une des auteurs du dernier rapport de l'Agence du développement de l'ONU. Elle explique que les violences sexuelles ont évolué. Avant, ça se faisait plus au sein de la famille. Elles étaient répertoriées comme des violences intrafamiliales. Mais aujourd'hui, le développement des cartels dans ces pays et les mouvements migratoires, on peut rappeler 49% des migrants en Amérique latine sont des femmes, font que les violences se font de plus en plus en dehors et sont dans le plus grand nombre impunies. Honduras, par exemple, où la violence est endémique, 1 femme sur 3 meurt par heure.
Alors, vous avez évoqué une des zones les plus dangereuses du monde pour les femmes, les Caraïbes, l'Amérique centrale. Comment on explique que malgré des lois qui sont assez sévères finalement et des mouvements de défense des droits des femmes dans les réseaux sociaux surtout, cette violence ne cesse d'augmenter?
Eh bien, on parle de région, on parle de la région du Triangle du Nord, Honduras, Salvador, Guatemala et le Mexique aussi, région considérée la plus violente pour les femmes en tant que région qui ne se trouve pas en guerre mais qui vit une violence qui est indissociable des pouvoirs et où le crime organisé va de pair avec les viols impunis. Mais aussi les mouvements de migrants, comme le disait la porte-parole de l'ONU tout à l'heure, où le viol est utilisé comme un passage obligé, un passe-droit pour les trafiquants en tout genre. Tout cela dans des pays où les valeurs patriarcales dominent largement, malheureusement. Et en ce qui concerne la législation, comme vous disiez, l'Amérique latine est en théorie un exemple pour beaucoup de pays, puisqu'elle a intégré, 16 pays ont intégré dans leur législation le crime appelé le féminicide, mais dans la pratique, c'est plus dur à appliquer.
Alors, on reste sur le continent sud-américain. On retourne au Brésil, puisque en 2018, le Brésil aura des élections. Adriana, des élections présidentielles, très attendues, 4 ans après le début de l'opération anticorruption qui met en cause le géant pétrolier Petrobras et presque tous les partis politiques. Et à un an de ce vote, il y a un nouveau mouvement politique qui est issu de la société civile qui émerge sur la scène politique, un mouvement qui s'appelle Agora. On en parle donc avec vous, Adriana Moïses. Qui sont les leaders de ce nouveau mouvement politique?
François, le mouvement Agora a été conçu l'année dernière par 3 Brésiliens, le politologue Leandro Machado, la spécialiste en sécurité Ilona Zabo, proche de l'ancien président Fernando Henrique Cardoso, et la femme d'affaires Patricia Helling. Ce petit noyau, qui s'est agrandi entre-temps, s'est donné pour mission la construction d'un agenda contenant des propositions de politiques publiques capables de tisser large, attirant des électeurs de gauche ainsi que des libéraux. La lutte contre les inégalités est la plateforme de ce mouvement. Pour les politologues brésiliens Fabiano Eng, qu'on va écouter un petit peu, l'émergence de ce genre de mouvement est une tendance dans un scénario de crise des partis traditionnels.
Esses movimentos se apresentam como movimentos de fora, né? Muitas vezes, mas
qu'est-ce qu'il dit alors?
Il dit que ce mouvement ne va pas rester longtemps en dehors du jeu politique. Là, on est à une année des élections. Très probablement, ils vont lancer des candidats dans les prochaines semaines. Ils vont être dans le scénario avec tous les autres partis traditionnels.
Candidat à l'élection présidentielle également pour 2018?
Oui, en discussion, peut-être un présentateur de télé très, très populaire au Brésil, qui s'appelle Luciano Huck.
Est-ce que Agora a attiré également d'autres personnalités brésiliennes? Ça marche bien, ce mouvement-là?
Ça marche bien. Il compte déjà dans ses rangs des personnalités issues de l'ancien gouvernement de Dilma Rousseff, ainsi que du PSDB, les partis de l'ancien président Fernando Henrique, aussi du Parti Rede de Sustentabilidade, fondé par la leader écologiste Marina Silva, et même les conseillers en stratégie du président Michel Temer.
Alors à suivre. Merci beaucoup Adriana Moïses. On n'en dira pas plus aujourd'hui dans Accent du Monde, où comme d'habitude les accents étaient légers et le monde bien présent dans cette émission. Merci à tous les 3, Pizemam de la rédaction cambodgienne, Natalia Olivares, la rédaction espagnole, et Adriana Moïses pour la rédaction en brésilien. Merci de votre éclairage. Merci à Quentin Bresson qui réalise cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez à l'écoute.